Radio Horizon.
Radio Horizon.
Radio Horizon.
Radio Horizon. Le son pour découvrir des nouveaux horizons.
Le son des nouveaux horizons.
Interview de Malvina et Naos du cirque Le Bruit par l'équipe de Radio Horizon en mai 2023 à la Grainerie au moment de l'implantation de leur chapiteau.
Présentez-vous, s'il vous plaît.
Bonjour, moi je suis Malvina et j'ai fait la régie dans le cirque Le Bruit.
Et bonjour, moi c'est Naos, je fais aussi un peu de technique et de plateau, je suis comédien et je m'occupe de monter le chapiteau.
Quel est votre rôle dans le cirque ?
Et ben du coup, comédien et monteur de chapiteau.
Moi en régie, c'est assez large. Il y a un peu de lumière, de son, d'organisation, mais on se le partage aussi avec d'autres régisseurs.
Quand avez-vous commencé à travailler dans le cirque ?
Moi, ça fait 2 ans que je fais de la régie avec le cirque. Mmh. Et avant, j'étais plus dans le théâtre.
Et moi, ça va faire un peu plus de 4 ans maintenant aussi. Avant ça, j'ai fait un peu de théâtre de rue et j'ai travaillé dans la restauration, qui n'a rien à voir. Et voilà.
Quel est votre parcours et pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Très bonne question. Alors moi, pour mon parcours, j'ai donc fait une formation en restauration. Et ça ne m'a pas plu, le fait de rester enfermé dans une cuisine. J'aurais préféré être dehors. Du coup, je me suis gentiment dirigé vers le théâtre de rue. Et suite à ça, j'ai mon ami Maël qui est venu me voir avec le projet et l'envie d'acheter un chapiteau et de monter un cirque. Et du coup, du coup, on a commencé comme ça. L'envie est apparue au fur et à mesure.
Voilà. Moi, la régie, j'ai fait une formation. Du coup, après l'école, donc après le bac, j'ai fait une formation à Nantes de 2 ans pour faire de la régie dans le spectacle vivant. Et... ça m'a d'abord emmené sur le théâtre et j'étais intéressée par le cirque. Alors je suis allée à la rencontre de cette équipe et je reste avec cette équipe maintenant.
Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans votre métier ?
Alors, moi ce que j'aime le plus, je pense que c'est le fait d'être nomade, de ne pas rester au même endroit. D'être dehors, à l'extérieur, le mode de vie, à rencontrer des gens et à chaque fois changer d'endroit. Et ce que j'aime le moins, c'est qu'en régie, on a toujours des bugs techniques. Toujours plein de trucs à réparer.
Et moi, alors ce qui me plaît le plus, c'est un peu comme Malvina, c'est le fait d'être nomade. D'avoir jamais le même quotidien au jour le jour. Voilà, il y a aussi, comme elle dit, des bugs, des choses qui arrivent, qu'on doit gérer, qu'on doit apprendre à comprendre. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu une nouvelle journée, une nouvelle étape. Et ça, et aussi le rapport au public, de voir les gens heureux à la fin d'un spectacle, ou émus, ou toutes sortes d'émotions, en fait, ça nourrit vachement notre être. Et du coup, pour ça aussi, je trouve que c'est très intéressant de faire ce métier, le rapport aux autres, l'échange, le partage. Et ce qui me plaît le moins, je dirais, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel et aussi physique, et du coup qui demande vachement d'investissement et de temps passé à construire, à fatiguer, à pas compter les heures pour travailler, à essayer d'être le plus efficace, mais des fois on n'a pas le temps et du coup ça demande des fois beaucoup de pression mentale et physique qui sont aléatoires. Et ça c'est un peu des fois, on aimerait que ça roule plus sur des roulettes et que ce soit un peu plus facile, mais ça fait partie du jeu quoi.
Quels sont les risques lors du montage de chapiteau?
Déjà, quand on monte un chapiteau, il y a le plan qu'on fait avant de le monter, du coup la pré-organisation. Du coup, ça dépend du terrain, il faut que ce soit plat, il faut qu'on puisse planter des pinces, etc. Il y a tout ça à prendre en compte, mais du coup, on le réfléchit aussi quand on choisit un lieu où monter notre chapiteau. Et ensuite, sur le montage, faut... les risques...
ils sont multiples.
C'est plein de petits risques partout. Déjà, il faut faire attention à nous, à la santé de chaque personne qui sont dans l'équipe. Du coup, niveau fatigue aussi, etc., parce que c'est très physique. Et il y a plein de petites choses à penser qu'il ne faut pas oublier, et vérifier l'état du matériel aussi. Et il faut quand même être concentré sur certaines étapes assez précises.
Oui, c'est ça, le risque, il est existant, mais il est contrôlé, parce qu'on met tout en œuvre en amont pour que rien n'arrive et qu'il n'y ait pas d'accident. Après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qui sont l'aléa, par exemple, du vent, de la nature, ou des choses comme ça qui vont faire que, potentiellement, il y a du risque au montage, par exemple, avec le vent, la bâche, elle peut voler. Mais dans l'ensemble, on fait attention à tout en amont, et on essaye d'être toujours très prudent. Et souvent, ce qui se passe, typiquement, moi, hier, je me suis un peu blessé. Avec la fatigue, on arrive tard le soir, on veut continuer un peu, on a des choses à faire, on a envie d'avancer. Et en fait, on se blesse bêtement. Et du coup, c'est souvent un annonciateur dès que je me blesse, je sais qu'il faut que j'arrête, parce que sinon, ça va. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est des petites blessures, c'est des coups, des machins. Mais c'est de la tension qui est diminuée, forcément, au bout de la journée. Et du coup, c'est des choses dont on doit faire attention.
Comment assurez-vous la sécurité pendant le montage du chapiteau et le lumière?
On fonctionne avec des référents en fonction des missions. Donc il y a des personnes qui connaissent mieux, qui ont plus d'expérience, du coup qui ont plus de références, et d'autres qui prennent petit à petit des missions. Et souvent, l'idée, c'est qu'il y ait une personne qui guide avec un peu un regard extérieur pour chaque mission. Pour pouvoir monter le chapiteau correctement.
Combien de temps fait-il pour monter le chapiteau?
Alors, juste le chapiteau, en une journée, ça peut être monté. Juste la bâche du chapiteau vide à l'intérieur. Nous, dans notre spectacle, on a toute une scénographie à l'intérieur, plus de la lumière, du son, et tout ça, ça va prendre, en tout, ça s'étale sur 4 jours, je pense, 3 jours, 3-4 jours. Et voilà, ça c'est, mais parce que c'est plein de petites choses à rajouter après, mais en soi, juste le chapiteau lui-même, en une journée, ça peut être monté.
Combien êtes-vous?
On est 12 dans l'équipe au complet.
D'accord.
Quelles sont les grandes étapes du montage?
Alors, la première étape, c'est le traçage. Donc, on a repéré le lieu en amont et on trace le chapiteau au sol, pour savoir où vont être chaque pince. Donc les pinces, c'est ce qui nous permet de retenir le chapiteau sur lequel on va accrocher des sangles. C'est comme des gros clous qu'on enfonce dans le sol, qui vont permettre au chapiteau de tenir. Du coup, en premier lieu, on va marquer tous les endroits où il va y avoir les pinces, les poteaux de tour et les mâts. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième grosse étape, ça va être de lever le portique. Donc on le construit, on le lève. Le portique, c'est la grande structure métallique qui permet de soutenir la bâche du chapiteau. Donc qu'on lève avec des tire-forts, qui sont des outils auxquels on accroche des câbles et qui permettent de tirer un poids énorme. Et voilà, ça, une fois que le portique est monté, ça c'est la deuxième grosse étape, c'est de mettre donc la bâche du chapiteau entre les deux mâts, qu'on va venir accrocher avec pareil des câbles et des tire-forts qui vont nous permettre de lever la bâche jusque là où on le désire, et ensuite on va pouvoir la déplier et l'accrocher aux pinces qu'on a mis en amont. Et du coup, ça, c'est les trois grosses étapes du chapiteau.
Quels sont vos horaires de travail?
Alors, nos horaires de travail, là sur le montage, on commence vers 9h à peu près. On se fait une pause le midi pour manger, des fois on se fait une pause café au milieu de la matinée, et après l'après-midi, on continue nos missions. Souvent, on arrête vers 18h, mais c'est aussi en fonction des fatigues de chacun. S'il y en a qui sont très fatigués, ils peuvent s'arrêter avant. D'autres, s'il y en a qui ont envie de continuer à faire des trucs ou de former un petit groupe pour aller monter quelque chose, c'est possible. On ne se donne pas d'obligation. On a juste tous en charge mentale qu'il faut monter le chapiteau et monter tout l'intérieur. Du coup, on essaye de s'écouter. En tout cas, on travaille là-dessus pour progresser aussi sur l'écoute et pour pas qu'il y ait des gens qui se blessent et respecter les rythmes de chacun au mieux. Et voilà.
Comment conservez-vous des vies familiales et vie sous la route?
Bah, moi, j'ai pas de vie de famille, donc je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Donc pour moi c'est pas très compliqué parce que bah en fait j'ai personne qui m'attend à la maison ou j'ai personne avec qui j'ai un autre projet commun. Donc moi je concilie ça assez facilement parce que du coup les périodes où je travaille pas, bah je vais voir ma famille, je vais voir ma sœur ou ma mère, voilà, c'est des moments où on peut aller voir sa famille, mais le reste du temps moi ça me pose pas de problème personnellement.
Dans l'équipe du bruit, il y a deux personnes qui, par exemple, eux, c'est le papa et la maman de Mandy, et ils sont tous les deux en tournée avec nous. Du coup, des fois, cet enfant, il est avec nous, des fois, il est gardé par les grands-parents ou d'autres gens. Du coup, c'est une organisation à prendre en compte dans le fonctionnement. Mais ceux qui sont dans l'équipe ont envie d'être nomades, donc c'est pas une contrainte. C'est beaucoup d'organisation pour eux, même sur les horaires, avec l'école, etc. Mais tout le monde en a conscience et on est à l'écoute de ça pour s'organiser en fonction d'eux aussi. Et après, il y a aussi des enfants qui ont un parent qui n'est pas dans l'équipe et du coup, cet enfant, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Tout est organisable. Enfin, oui, tant qu'on le dit et qu'on en a... Enfin, qu'on essaye tous de le prendre en conscience. Et forcément, quand on n'est pas les parents concernés, on a beaucoup moins en charge mentale ça, mais on essaye d'y penser au mieux pour que ce soit agréable pour tout le monde.
Et puis, on n'est pas tout le temps sur la route non plus. Oui. C'est quelques mois dans l'année, ça va être aux alentours de 3-4 mois dans l'année, ça va dépendre des années, mais du coup, ça permet aussi à des moments de se retrouver... voilà, ils ont un lieu de vie commun, par exemple, avec leur enfant où il a la crèche à côté. Voilà, quand ils ne sont pas en tournée avec nous, bah, ils retournent à leur vie lambda, si on peut dire.
Lâche un peu, Tom. Et go, apprends. Un peu moins. Ok, on y va.
Quelle a été l'inspiration derrière les noms, les bruits?
Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là. Du coup, Palvina, tu étais là, je crois. C'est un peu la patate chaude, mais voilà, je te la donne.
Merci, Naous. Le bruit. En gros, quand on monte un projet, il faut trouver un nom pour pouvoir en parler, pour faire des dossiers de production administratifs, etc. Et pour la communication aussi. Du coup, on a créé un nom avant de faire un spectacle parce qu'il y a toute la préparation qui se fait en amont, alors qu'au plateau, il n'y a pas encore de spectacle vivant de créer. Et ça a été... un peu long et...
Oui, c'est plein de discussions.
Plein de discussions en petits groupes. Après, on rassemble des idées.
Des fois, ça n'a pas forcément de sens précis. C'est des choses qui nous parlent. Et du coup, après, chacun peut créer du lien avec ça, se donner une idée, se donner une inspiration. Mais en tout cas, le bruit est quelque chose qui est partout et du coup, qui est hyper présent dans notre quotidien. Et il y a le beau bruit et le bruit désagréable, entre guillemets. Et du coup, la frontière entre le bruit et le son et la musique, elle est très proche. Et c'est aussi tout ça qui nous a intéressés sur le fait de mélanger les sonorités, les choses qui nous dérangent et à la fois qui nous attirent. Et voilà, c'est un peu
plein de choses. Pour contrer l'injonction au silence.
Voilà, aussi.
Ok. Que faites-vous pendant le spectacle?
Ben moi, je suis sur scène. Je suis comédien, donc je vais être sur le plateau et je vais interagir avec les autres artistes sur le plateau, entre autres, et faire de la technique aussi à l'arrière un petit peu. Par exemple, nous, on a une structure qu'il faut animer. Donc moi, je vais l'animer en étant caché derrière pour l'activer. Ou voilà, il y a des choses, des fois, qu'on va faire en amont ou qu'on va faire derrière pendant que le spectacle se joue. Activer, je sais pas, un petit truc qui va faire un effet magique ou voilà, des petits effets visuels. Voilà, ça, c'est ce que je suis amené à faire, moi, pendant le spectacle.
Et moi, pendant les spectacles, bon, le spectacle est en cours de création, du coup, tout change encore. Donc, je connais pas précisément qu'est-ce que je vais faire là pendant le spectacle. Pareil, s'il faut jouer avec de la lumière ou avec de la machinerie ou du son. Des fois, on fait la régie en étant derrière le public, mais des fois, il y a des choses à faire physiquement aussi au plateau. Du coup, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi toute la préparation autour. Du coup, la billetterie, préparer l'accueil public, la gestion du bar et plein de petites choses annexes, faire en sorte qu'il y ait des toilettes pour le public. Toutes les choses qu'il faut respecter et les commissions de sécurité aussi. Mmh. Faire en sorte que s'il se passe quelque chose, tout se passe bien quand même. Et du coup, avoir tout ça en tête et organiser ça.
Que faites-vous pour vous préparer avant le spectacle ?
Alors moi, juste avant le spectacle, je vais me maquiller, je vais me préparer, regarder que la mise en place de mon spectacle soit prête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va débuter un spectacle, on a chacun des rôles précis. Et du coup, c'est avoir tous les objets dont on a besoin pendant le spectacle qui sont placés aux endroits dont on a besoin pendant le spectacle. Donc ça, c'est à faire juste avant le spectacle, parce que pendant le spectacle de la veille, on les a utilisés. Du coup, ils ont été déplacés ou autre. Donc c'est vérifier que tous les objets soient à leur place. Et ensuite, s'échauffer un peu, se concentrer, se recentrer aussi. Certains ont besoin de faire un peu de méditation, par exemple, pour essayer d'être bien concentré avant l'accueil du public. Et voilà, et ça, à chacun sa manière d'être en début de spectacle. Il y en a qui vont pas du tout parler, d'autres qui vont être hyper excités. Voilà, c'est vraiment un peu chacun. Mais moi, j'ai pas trop de rituels précis avant le spectacle, mais certains en ont.
En technique, avant le spectacle, c'est pas juste avant le spectacle, mais c'est dans, par exemple, si on joue le soir, dans l'après-midi, on va faire les balances-sons, du coup, tester que tout fonctionne, régler les niveaux, régler s'il y a des problèmes, s'il y a des pannes, vérifier tout ça pour être prêt pour le soir. En lumière, c'est pareil, tester qu'il n'y ait aucune lampe qui est éclatée, vérifier que les projecteurs n'ont pas bougé. S'il y a des modifs qu'on veut faire par rapport à la veille, on les fait. Et en machinerie, vérifier que les guindes, elles ne sont pas toutes emmêlées. Ça, c'est pareil, c'est comme une mise. C'est une mise de vérifier que tout soit bien prêt dans le bon ordre pour le déroulé du spectacle. Et ensuite, sur les à côté, c'est préparer la billetterie, le bar.
Et il y a si,
Et ensuite, souvent 15 minutes avant l'entrée publique, on se retrouve pour faire un petit cercle pour se retrouver l'équipe complète avant d'ouvrir les portes du chapiteau et accueillir le public. Ça, c'est le petit rituel commun à toute l'équipe où on se retrouve.
Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est le moment où on va communier tous ensemble avant l'arrivée du public pour essayer de s'harmoniser un peu. On se regarde tous, on se serre la main, on crie très fort pour s'encourager. Et c'est un moment un peu d'énergie avant le spectacle pour dire « Allez, c'est parti, on y va ».
Ça, c'est la scène où il y a les musiciens, il y a les batteurs, le batteur et la bassiste. Là, il y aura d'autres musiciens ici aussi. Et après, là, on va fermer aussi comme là, avec le pendrillon. Ferme ici. Ça, après, tout est fermé. Ça, c'est les coulisses. C'est là où nous, on peut circuler pendant le spectacle, où on a nos affaires et tout ça. On peut s'occuper de tout derrière, caché du public. Et après... Après, c'est ça, ça dépend. Il y a des chapiteaux qui. Celui-là, il est homologué pour 300 personnes, donc on peut pas accueillir plus de 300 personnes dessous. Mais en vrai, si on changeait l'homologation, il pourrait accueillir 600 personnes, jusqu'à 600 personnes.
Ah ouais!
Mais
c'est.
Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors
En dehors du cirque?
Ouais.
Moi, des fois, je fais un peu d'escalade en activité extra-travail. Sinon, des fois, je joue un peu de musique. Et sinon, se balader, aller voir des amis, aller voir d'autres spectacles, aller voir des copains. Des fois, être seul aussi, se ressourcer un peu, c'est bien. Parce qu'on vit quand même tout le temps en collectif. Et du coup, voilà, c'est très, très variable.
Moi, j'aime beaucoup le voyage. Donc, quand je peux et que j'ai le temps, j'essaie de partir en voyage. Et après, sinon, moi, bah, voilà, comme a dit Malvina, on est très souvent en collectif. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, en fait, le reste du temps. Et j'ai besoin de ces moments où, après un mois de résidence comme ça, où on est 12, au quotidien, tous les jours, à manger ensemble, à vivre ensemble, ça demande beaucoup de présence aussi mentale. Et en fait, moi, ça au bout d'un moment, ça me fatigue. Et du coup, j'ai besoin d'être seul. Et du coup, ça me fait énormément de bien pendant un mois de voir personne, de rester un peu cloîtré. Moi, j'habite dans la campagne, dans l'Aveyron. Et je reste là-bas et ça me va très bien. J'ai mes petites activités. Il y a la rivière, j'ai un drone, je m'amuse à faire du drone. Voilà, des trucs hyper simples, vraiment. Et après, bien sûr, aller voir des spectacles et des amis. Mais c'est vrai que souvent, après des grosses sessions de travail, j'ai besoin de me retrouver seul, quoi.
Ah, d'accord. Quel conseil avez-vous pour les jeunes qui essaient de suivre votre trace?
Je pense que faut pas hésiter, faut y aller, faut essayer. Il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, c'est un métier qui demande de l'investissement, qui demande de y aller et de se tromper, donc d'essayer. Et du coup, y a plein de manières de faire différentes, dans le cirque, dans le théâtre, dans les spectacles vivants. Et du coup, y a plein de manières et d'axes d'y accéder. Et des fois, je pense que la plus grande peur des gens qui sont intéressés par être artistes, entre guillemets, ou à travailler dans ce genre de milieu, c'est la précarité, parce que ça demande beaucoup de temps de travail qui des fois ne va pas être rémunéré et du coup des fois c'est un peu faire des sacrifices pour espérer un jour avoir assez d'heures pour faire des cachets et avoir son intermittence par exemple et des fois on a un peu cette sensation qu'on va être dans une situation précaire parce que trouver du boulot c'est pas toujours facile, il faut avoir aussi des idées de spectacle, des envies ou alors de travailler avec des gens qui te plaisent et qui vont pouvoir te diriger sur des spectacles, mais tout ça, c'est des choses qui prennent du temps et du coup, ça se fait pas du jour au lendemain, à moins d'avoir travaillé des années en amont à un agrès de cirque, par exemple, qui fait que tu as une compétence de cirque très élevée, mais ça passe par des écoles. Et nous, moi, par exemple, j'ai pas du tout fait d'école, je suis autodidacte, entre guillemets, j'ai suivi des compagnies qui m'ont beaucoup plu sur leur travail, et je me suis inspiré d'eux, et j'ai travaillé avec eux, et au fur et à mesure, j'ai créé un peu mon univers et mes envies, mais c'est ça, c'est y aller sans hésiter, quoi, mais non, sans avoir peur de l'échec et de pas être payé forcément.
Pas tout après, le temps, je pense qu'il y a aussi que c'est intéressant d'aller voir, chaque compagnie fonctionne différemment, du coup, d'aller voir plein de types de fonctionnements différents pour prendre dans chaque fonctionnement ce qui toi t'intéresse ou ce qui t'intéresse pas. Et en fait, former avec ça ton idéal de fonctionnement et ta manière de voir les choses, qu'elles te ressemblent, et du coup que tu puisses monter tes projets avec tes envies. Mais de se baser sur des exemples, parce qu'il y a plein d'exemples qui existent, c'est très très différent.
Ok. Et quelles sont vos dates à la crénerie?
Alors, on joue du 25 au 28 mai. Tous les jours à 20h, sauf le dimanche à 17h. Mmh. Et si vous voulez, vous pouvez réserver à lebruit.billetterie@gmail.com où on a un numéro de téléphone aussi qui est indiqué sur le site internet du Cirque des Petites Natures.
Ce fut un grand plaisir de vous avoir ici avec nous à Radio Horizon et nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous accueillir ici.
Cette interview a été réalisée par l'équipe de Radio Horizon. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Bismillahirrahmanirrahim.